Good Morning Hossegor, l'interview, rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h. Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Hossegor, l'interview sur Web Radio, changement de terre et de langue. Avec mon invité aujourd'hui, il a signé 4 albums solo folk rock en langue bretonne et enregistre le 5e actuellement dans les Landes au studio Shorebreaker à Tarnos. Une excellente occasion pour le recevoir, j'accueille Briègue Gervano. Bonjour Briègue.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté mon invitation pendant cette semaine d'enregistrement. Tu es auteur, compositeur et interprète breton, né à Saint-Brieuc. Très jeune, tu as joué de la musique et chanté en breton avec des premiers groupes métal. Tu te lances ensuite en solo sous ce nom avec ce projet folk rock pour lequel tu enregistres aujourd'hui ce 5e album. Alors le précédent, Velmavin, si je prononce bien.
Très bien.
était sorti en 2020, puis dans une nouvelle édition en 2021. Là, tu étais plutôt dans une veine folk.
Oui.
Qu'est-ce qu'il en est pour ce nouveau disque que tu enregistres aujourd'hui ?
Alors là, on est toujours un peu dans un univers folk, mais on s'écarte un petit peu aussi avec des influences un petit peu plus pop. Voilà. Toujours un peu ses cordes, mais un peu plus de sonorité électronique aussi.
Ok.
Voilà.
Bon, tu te réinventes encore.
J'essaie de faire des choses différentes à chaque disque. Depuis le début, j'arrive pas à faire deux fois le même disque. Et puis à chaque album, c'est aussi des rencontres. C'est aussi envie d'explorer des nouvelles musiques aussi. Quoi. Voilà.
Est-ce que c'est l'âge aussi, cette évolution métal, rock, folk, un peu plus pop ? Est-ce que t'es moins en colère, peut-être un peu plus mélancolique et plus joyeux aussi ?
Bah, disons que ouais, j'ai toujours été pop parce que moi j'ai grandi avec les Beatles, les Floyd. Et donc après adolescence, c'est vrai que je suis allé vers les musiques extrêmes. Et pendant longtemps, j'ai été vraiment dans le métal extrême. Mais j'ai toujours eu un pied dans le rock et dans la pop. Donc en fait, c'est... Peut-être que j'osais pas au début aller vers ça. Et effectivement, peut-être qu'avec l'âge, on s'assagit aussi.
Dès le début, tu as écrit en breton ?
Ouais, dès l'adolescence, hein, dès que j'ai commencé à écrire des textes vers l'âge de 12-13 ans, comme tous les ados, j'ai écrit en anglais aussi. Et puis, en fait, le breton, c'est vraiment ma deuxième langue. Donc, je la parle depuis petit. Donc, tout ça a fait sens très vite chez moi, adolescent. Et j'ai très rapidement, vers l'âge de 16 ans, écrit des textes en breton. Ouais.
Et quelles sont les caractéristiques de la langue bretonne qui fait que ça sonne si bien en rock, en folk ?
Je pense que
sûrement comme l'anglais, en fait, mieux que le français.
Ouais, disons que quand j'avais 16 ans, j'écoutais pas mal de métal et notamment des groupes scandinaves. Et il y en a beaucoup qui chantaient en norvégien ou en suédois et tout ça. Et la langue bretonne, elle a des côtés des fois assez rugueuses, assez âpres, qui collaient très très bien avec ce genre de musique, avec la façon dont je chantais à l'époque. Donc je chantais pas en voix claire, c'était plutôt des voix métal, quoi, criées un peu. Et du coup, ça collait très bien avec ces esthétiques-là, quoi.
Et ce nouvel album, tu l'enregistres avec tes musiciens de toujours, guitare, clavier, cordes ?
Oui, donc c'est à peu près la même équipe que sur le précédent disque. On a juste un batteur et une bassiste en plus. Parce que sur le précédent disque, il n'y avait pas du tout de section rythmique. C'était vraiment un disque folk avec juste des cordes et des guitares et ma voix. Et sur ce disque-là, donc on a Faustine Audebert qui est une chanteuse bretonne aussi, qui fait de la chanson, qui joue dans plusieurs groupes en Bretagne. Et Nicolas Hilde qui est un batteur aussi, qui joue dans pas mal de projets en Bretagne aussi.
Et pourquoi, pour ce 5e album, tu viens dans les Landes, au studio Shorebreaker, vous connaissiez ?
Bah, en fait, moi j'ai des liens avec le Pays Basque depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Alors j'ai un lien assez particulier avec le Pays Basque, parce qu'en fait, quand j'étais au collège, moi j'ai été scolarisé dans la filière Diwan en Bretagne. Donc c'est l'équivalent des Ikastola au Pays Basque. Où on a une scolarité en immersion en langue bretonne. Et quand j'avais, je sais pas, en 6e, 5e, j'écoutais du rock, quoi, du métal à 12-13 ans. Et donc beaucoup de groupes qui chantaient en anglais. Et j'avais un copain qui me dit, tiens, écoute ça. Et c'était Negu Gorriak. C'était la première fois que j'entendais du rock en basque. Et du coup, je me suis dit, mais c'est cool, tout, ils chantent en basque et tout. Et c'est un peu en écoutant ces musiques-là que je me suis dit, mais très tôt, vers 12-13 ans, mais en fait, ouais, si je fais du rock, je peux aussi le faire en breton. Et donc, voilà, j'ai toujours eu ce lien-là avec le Pays Basque. Et en 2012, j'avais sorti un EP à l'époque qui s'appelait Bleu Nuit en Distruge. Et on avait réussi à s'organiser une petite tournée au Pays Basque. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les Willis Drummond. Et en fait, il y a un lien d'amitié qui s'est noué petit à petit. Et, on a eu des échanges, ils sont venus en Bretagne, ils m'ont fait venir jouer au Pays Basque. Et donc l'équipe du Shorebreaker, donc Johannes, c'est le frère du batteur de Willis Drummond. Enfin voilà, tout ça c'est un peu voilà les amis. Et puis Félix, il m'avait dit, mais ce serait bien qu'un jour tu viennes enregistrer au Shorebreaker, au Pays Basque.
Donc et, le batteur voilà, de Willis Drummond.
Le batteur de Willis Drummond. Et donc du coup, ça s'est fait comme ça. Et en fait, le studio où j'enregistre habituellement en Bretagne est en réfection. Et du coup, j'ai contacté Johannes et je lui dis, écoute, est-ce que ça, tu penses que ça peut se faire? Et puis voilà, ça s'est fait.
Et quand tu enregistres comme ça, que tu changes de lieu, de studio, Johannes est producteur aussi de l'album, ouais. Ça veut dire que tu es attentif à l'impression et les sentiments qu'il peut partager avec toi sur ta musique, ou tu as quand même une idée de là où tu veux aller et...
Disons que déjà, c'est la première fois que je quitte la Bretagne pour enregistrer un disque. C'est la première fois que je confie un peu les clés du camion à quelqu'un, en l'occurrence Johannes qui fait la réale. Donc ça c'est déjà deux pas qui n'étaient pas faciles à, enfin en tout cas de confier les clés comme ça, c'est pas forcément facile pour un artiste, mais enfin il y a une histoire de confiance aussi qui doit avoir lieu quoi. Et du coup il y a des titres sur l'album que moi j'ai que j'ai écrit déjà, les textes, la musique. Il y a des chansons que j'ai assez abouties en termes de pré-production, et puis d'autres qui étaient un peu moins abouties. Et il y a un travail de confiance entre nous deux, je crois. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui travaille très bien.
Il y a un label qui t'accompagne sur ce nouvel album ?
Alors moi, j'ai mon propre label, voilà, qui s'appelle Casquat, qui produit. Et en licence, on travaille avec un label nantais qui s'appelle Yotanka, voilà, qui est assez connu dans
qui avait réédité le précédent.
Ouais, qui a réédité Valmavin et qui a produit le live au Transmusical aussi, voilà.
Metal, folk, rock, pop, musique traditionnelle, t'écoutes quoi toi?
Qu'est-ce que j'écoute? Moi j'écoute un peu de tout, en ce moment j'écoute beaucoup de jazz, j'écoute beaucoup de jazz, mais j'écoute pas mal de la folk, j'écoute un peu de tout, je suis assez branché Ben Howard, je suis assez branché L'Aurore, des groupes islandais, enfin voilà.
Donc dans toutes les langues?
Dans toutes les langues en fait, moi j'ai pas du tout d'a priori ni sur les langues ni sur les peuples.
Et on va se faire une pause en musique avec tes homologues basques. Oui. Tu nous racontais cette histoire de rencontre avec Willis Drummond et tu as choisi le titre Gozak. Pourquoi ce titre?
Eh ben, c'est un titre du dernier album, tout simplement, c'est un de leurs singles et puis je me suis dit voilà, ce titre-là, qui est très bien.
Yeah.
Gozak de Willy Strumont, c'est la programmation musicale de mon invité dans Good Morning Osegor, l'interview, l'artiste breton Brik Gervano, pardon, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à l'occasion de l'enregistrement de son prochain album dans les Landes au studio Shorebreaker à Tarnos. Velmavine, on en parlait, Brieg, le précédent album a connu une vie un peu particulière. Si je dis pas de bêtises, il est d'abord sorti en 2020, l'année du Covid, avec du coup une communication, une diffusion réduite et puis des dates de concerts reportées. Puis il a été réédité par le label Yucatan, tu en parlais l'année suivante, avec pièces à la distribution. Tu avais déjà travaillé auparavant avec ce label ou ça s'est fait justement à l'occasion de cet album ?
Non, en fait, c'était vraiment ce disque, comme tu le disais, il est sorti en janvier 2020 et je crois que c'était en mars ou en février-mars qu'on était confinés. En fait, on a fait une date dans une chapelle en Bretagne et le lendemain...
Confinement.
Donc, une trentaine de dates annulées. En plus, pour la première fois, j'étais programmé au Transmusical, il y avait les Vieilles Charrues, il y avait énormément de dates. Les Tombées de la Nuit à Rennes, enfin, il y avait des super dates et tout annulé. Donc ça a été très 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 dur moralement, voilà. Et on a continué à travailler avec le groupe malgré tout. On a obtenu des aides pour pouvoir monter un spectacle. On a fait les Transmusicales en 2020 qui avaient été annulées parce qu'on devait jouer au TNB à Rennes deux soirs de suite avec Andrea Laszlo des Simonets. Et du coup, on s'est retrouvé à faire un live à l'Ubu pour Culture Box, voilà. Et en fait, le projet a fait parler de lui. Et malgré tout, on a réussi à vendre des disques. Enfin, c'était très particulier. Et je pense que comme c'était un projet un peu folk, un peu place assise, à la lanterne un petit peu, ça a très bien marché en Bretagne parce que je crois que c'est le disque qui tombait au bon moment, finalement. Et c'était le coup de cœur de Jean-Louis Brossard des Transmusicales. Donc le projet a fait parler de lui. Et puis il y a eu ces opportunités avec Yotanka, le label nantais. Et puis... comme le disque s'est écoulé très rapidement, la signature, on a décidé de le rééditer parce que moi c'était une production où il n'y avait pas de livret dedans, donc on a pu le rééditer avec un livret, avec un titre bonus, etc. Donc ça a été une période difficile et en même temps ça a profité au projet. C'est très particulier cette histoire-là.
Rétrospectivement. Ouais. Il y a eu du bien dans le mal.
Il y a eu du bien dans le mal, complètement.
Ces chansons que tu enregistres cette semaine chez Shorebreaker, tu les as écrites quand ?
Ces deux dernières années. Après, j'ai commencé l'écriture fin 2021, début 2022, justement après mon passage au Transmusical. Je me suis remis au travail très rapidement. Et on va dire, pendant deux ans, j'ai exploré un peu, j'ai écrit une vingtaine de titres à peu près. Et on en a gardé une dizaine pour le disque. Voilà.
Et tu nous parles de quoi dans ces chansons ?
Je parle beaucoup d'amour dans ce disque-là.
Okay.
Voilà. C'est essentiellement des chansons d'amour. Alors, pas que l'amour des femmes, hein. C'est l'amour des amis, l'amour, l'amour des gens, l'amour de la terre, l'amour de plein de choses, l'amour en général. Voilà.
T'as des routines pour écrire, composer ? D'abord la musique, une mélodie, d'abord les textes, il n'y a pas d'ordre. Tu as des moments pour composer, il faut que tu sois chez toi, tranquille, bien au calme, où tu peux écrire partout.
Non, j'essaie de m'accorder des moments assez réguliers. C'est un peu une espèce d'hygiène de vie, en fait. Tous les matins, j'essaie d'y consacrer 2-3 heures, quoi. Que ce soit pour la pratique de la guitare, du piano, du chant, de l'écriture aussi. Des fois, c'est des textes avant, des fois, c'est la musique avant. Il n'y a pas vraiment d'ordre, en fait. C'est comme ça vient, un peu.
Et tu es autodidacte en musique ?
Je suis autodidacte. J'ai eu une formation musicale petit dans les Bagades, en Bretagne. Ici, c'est pas connu, mais chez nous, c'est un peu l'école de musique populaire. Les Bagades, c'est l'équivalent des Pipebands en Écosse, et dans les pays celtiques, où il y a cornemuse et caisse claire. Donc moi, j'ai appris la caisse claire dans les Bagades. Donc voilà, c'est très populaire en Bretagne.
C'était ton premier instrument ?
La caisse claire, ouais.
Ok.
Ouais.
Et après, toi, en autodidacte, tu t'es mis à la guitare.
Ouais, puis au chant.
Et puis au chant. Ouais. Et par rapport au chant, il y a une évolution aussi. Alors, c'est dû au genre musical que tu interprètes, mais pas seulement. Est-ce que tu t'assumes plus comme chanteur ? Est-ce que à l'origine, tu te sentais plus musicien et maintenant que tu t'assumes plus comme interprète aussi ?
Ouais, j'ai réussi à franchir ce cap-là, je pense, d'intégrer le fait que j'étais vraiment chanteur, et notamment sur le prochain album où je joue presque pas. Où je fais principalement du chant. J'ai réussi à l'assumer aussi à la suite des Transmusicales où je me suis vraiment senti chanteur, en fait. Ça m'a aidé, enfin, tous ces lives et je pense que la rampe, ça a été le précédent album, vraiment.
Depuis que tu t'es lancé dans ce projet solo en langue bretonne, ta musique a trouvé un large écho, alors en Bretagne, mais aussi hors de ses frontières, en France et à l'étranger. Est-ce que tu penses que, voilà, alors tu en es l'exemple, mais des spécificités culturelles locales peuvent devenir universelles finalement ?
Bah, bien sûr, en fait, pour moi, l'universalisme n'est pas réservé à la langue française.
Ou anglophone.
Ou anglophone. On a tous notre façon de voir le monde, et puis chaque langue porte en elle une vision du monde, une façon de voir le monde. Et pour moi, qui écoute plein de musique dans plein de langues différentes, ça n'a jamais été un handicap. Je pense que en France, on souffre d'une façon un peu étriquée de voir l'universalisme et les langues. Et les langues, moi j'aime pas dire langue régionale, je préfère dire langue minorisée, souffrent de ça justement. Et en France, quand on est un artiste en langue bretonne, c'est très très dur de jouer en dehors de la Bretagne, alors qu'on peut très facilement aller jouer au Royaume-Uni.
Plus facilement à l'étranger que dans le reste de la France, en fait.
Moi j'ai joué au Japon, j'ai joué en Italie, j'ai joué en Irlande, j'ai joué au Pays de Galles. Et par contre, j'ai énormément de mal à jouer en France. Voilà. J'ai joué au Pays Basque, mais j'ai énormément de mal. J'ai fait des concerts à Paris, aux Trois Baudets, dans des salles comme ça, hein, qui sont des super salles et tout ça. Mais ça reste quand même assez difficile, parce que je pense qu'il y a une espèce de folklorisme. En fait, on a tellement fait du mal à la langue bretonne qu'on a essayé de mettre ça... C'est un peu comme l'image de Banania et du nègre qui... Enfin voilà, c'est un peu ça. Donc pour la langue bretonne, c'est un peu pareil. Pour l'image de la Bretagne, c'est souvent un peu pareil. C'est un peu des caricatures un peu arriérées du peuple breton, de la langue bretonne. C'est toujours des clichés, quoi, qui ont eu la vie dure en France.
Et c'est comment modifier ces mentalités outre toi par ta création ? C'est un soutien médiatique plus large ? C'est programmateurs de festivals un petit peu plus curieux ?
Ouais, je pense que ça passe par la diffusion. Hein. Ça passe par la diffusion des langues dites minorisées. Je pense qu'il faut que... faire croire aux gens qu'en France, il n'y a qu'une langue et qu'une façon de voir le monde, je trouve ça complètement étriqué, quoi. Mais c'est lié à l'histoire de la France, et c'est lié à la façon dont l'État a mené sa politique depuis la Troisième République en France. Hein. Donc, mais il n'y a qu'ici qu'on voit... Moi, je travaille par exemple avec des Gallois, et c'est complètement différent au Royaume-Uni, quoi. C'est complètement différent. Et de ce que j'ai compris et de ce que je vois, c'est aussi différent en Espagne, hein, où il y a quand même le basque, le catalan, et c'est admis. Et ça gêne pas du tout les gens d'entendre du rock en basque. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est une spécificité française qui a la vie dure. Et puis voilà.
Ce prochain album, ce sont des chansons d'amour, mais tu défends la langue bretonne. Dans tes chansons, tu as parlé parfois de révolte, d'éveil. Ouais. Est-ce que tu te sens un chanteur engagé ?
Alors, ça, c'est une question que je me pose depuis que je chante en breton, depuis l'âge de 12-13 ans. En fait, pour moi, je chante pas en breton pour faire de la politique. C'était pas mon but premier. Mais il faut admettre qu'à partir du moment où on chante dans une langue minorisée, on est politisé. Dans le sens où c'est forcément un combat, puisque quand on chante en breton, on est amené à défendre le fait de pourquoi on chante en breton. Et ça, c'est constant. Et il suffit de passer sur des radios nationales pour s'en rendre compte. Et donc forcément, on est politisé malgré nous. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses, moi. C'est-à-dire que je parle pas de politique dans mes textes, mais le fait de chanter en breton, c'est un acte militant, qu'on le veuille ou non. Pour moi, tout le monde ne le voit pas comme ça. Moi, je le vois comme ça parce que ça fait 17 ans que je fais ce projet-là. Et je sais à quel point c'est dur de faire entendre ça. Et comme je disais à l'instant, des raccourcis qui peuvent être faits. Je sais pas combien de fois j'ai pu être au contact de programmateurs, de radio, de télé, qui refusaient de me diffuser parce que je chantais en breton. Ils prenaient pas la peine d'écouter, hein. C'est chanté en breton, donc c'est du biniou, donc c'est les trianes, c'est le loup, le renard, la belette, point final. Non mais c'est ça, c'est triste, mais c'est ça. Donc du coup, on est obligé de défendre son truc encore plus qu'un groupe qui chante en anglais ou en français.
Alors que toi, ta motivation première pour chanter en breton, elle est culturelle et pas politique.
Elle est culturelle, c'est juste que c'est la langue que j'utilise tous les jours aussi, quoi. C'est la langue de mes grands-parents, c'est la langue de mes parents, voilà.
Après ce séjour landais, tu rentres en Bretagne pour des concerts. Tu seras le 16 mars à la MJC de Trégunc.
Trégunc.
Le 14 avril à Saint-Renan et le 25 mai à Morlaix. Des festivals aussi au programme cette année ?
Pas cette année. Okay. Pas cette année. On n'a pas de festival cette année. L'année dernière, on avait fait des gros festivals. On avait fait le Festival Interceltique. On avait fait le Motoculteur Festival, qui est un peu le pendant du Hellfest aussi, qui est un gros festival métal en Bretagne. Et cette année, plus concentré sur l'album, du coup. Voilà.
Pour une sortie programmée
J'espère premier semestre 2025.
Ok, voilà. L'année prochaine.
C'est ça.
Merci beaucoup, Briègue. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, Briègue Garvenon, et ton site brièguegarvenon.com. Et puis, on va se quitter en musique avec l'un de tes titres, ouais. Petra Zobelt.
C'est ça, tu le prononces très très bien.
Peut-être que je prononce mieux le breton que l'anglais, finalement. Issu de ton quatrième album, Velmavin. Petra Zobelt, qui signifie « Que s'est-il passé ?»
Que s'est-il passé, ouais.
Et c'est quoi ? C'est une invitation à éveiller nos consciences sur tous les sujets.
C'est une espèce de chanson un peu dans la veine des chansons power folk anglaises assez revendicatives et qui parle de l'écologie en fait. De qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, sur cette planète. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonne journée.
Where do one day you? Mossegor, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.